Radio de la Paix, la grande interview.
Ben Diakité.
Bonjour à tous, bienvenue à l'émission La Grande Interview. Aujourd'hui, dans le cadre de La Grande Interview, je reçois le deuxième vice-président de la Commission électorale indépendante, Monsieur Alain Dougou. Il est notre invité. Avec lui, nous allons parcourir l'actualité de la Commission électorale indépendante, une commission qui est en ce moment sur le terrain pour informer et sensibiliser les populations sur le processus électoral.
Radio de la Paix, se parler, s'écouter. Se comprendre.
Monsieur le vice-président Alain Dougou, bonjour.
Bonjour.
Plaisir pour nous de vous retrouver ici vous-même dans vos locaux ici à la CEI. Avec vous, nous allons parler de cette campagne que vous avez lancée et que vous êtes en train de dérouler. Pourquoi la CEI va vers les populations? Est-ce qu'il y a urgence en ce moment?
Je vous remercie. La Commission électorale indépendante a 24 attributions. Et l'une de nos attributions nous demande de sensibiliser la population pour les élections. Donc c'est une mission de sensibilisation et d'éducation citoyenne en vue de donner aux populations toutes les informations nécessaires pour leur participation active au processus électoral. Nous venons de finir un cycle électoral qui a été marqué par l'organisation des élections municipales, régionale et sénatoriale, et nous allons bientôt commencer un nouveau cycle électoral de 5 ans avec les élections présidentielles. Mais avant, nous avons une activité fondamentale qui est l'actualisation de la liste électorale. Donc les missions de sensibilisation que nous avons commencé le 1er juillet, qui se sont achevées le 10 juillet, se sont déroulées sur toute l'étendue du territoire national, dans tous les chefs-lieux des régions et les chefs-lieux de communes, pour sensibiliser toutes les populations en vue de leur donner tous les éléments nécessaires avant de se présenter à l'enrôlement le jour J, enrôlement que nous souhaitons que nous comptions faire fin septembre.
Alors, monsieur le vice-président Alain Dougou, vous avez parlé donc du travail que vous avez eu à faire dans le cadre donc de cette campagne de sensibilisation. Maintenant, je vais vous demander quelle différence vous faites entre les découpages électoraux que vous initiez, que vous expliquez dans le cadre de cette campagne, et le découpage administratif. Bien entendu, parce que ce n'est pas toujours clair pour nos populations et pour nous-mêmes.
Je vous remercie pour cette question de clarification. Il y a un autre élément qu'on appelle la cartographie électorale, et dont vous n'avez pas parlé, mais qui a été évoqué lorsqu'il y a 2 mois, nous avons engagé nos techniciens cartographes dans chaque chef-lieu des départements pour rencontrer les populations en vue d'actualiser la cartographie électorale. Nos partenaires, qui sont généralement les partis politiques et la société civile, ont grogné en disant « Pourquoi nous ne les associons pas au découpage électoral ?» Nous avons dit « Non, ce n'est pas un découpage électoral, c'est la cartographie électorale, c'est le répertoire des lieux et bureaux de vote. » Donc, à la fin du cycle électoral et en vue de la prochaine révision de la liste électorale, nous envoyons des missions pour rencontrer dans chaque chef-lieu de département et de sous-préfecture et commune les populations pour constater est-ce que les anciens lieux d'enrôlement, anciens lieux de vote sont encore en l'état. Un établissement scolaire peut être vendu par des propriétaires à quelqu'un qui peut le transformer à une usine ou à un magasin. Là, à Tekoubé, il y a eu un établissement scolaire qui a été broyé, balayé, enlevé. Et qu'est-ce qu'on fait des gens qui votaient là? Dans tel village, le village est allé sur un nouveau site de regroupement. Donc, ensuite, il y a des populations qui se sont déplacées et qui sont devenues importantes dans une localité qui n'abritaient pas de lieu de vote. Maintenant qu'ils sont importants, il faut créer un nouveau lieu de vote. Donc nous avons fait ce travail de cartographie et nous sommes en train de le valider. Nous avons profité de cette dernière mission, présenter le résultat à toutes les populations en termes de correction des libellés, en termes de suppression d'anciens lieux qui n'existent plus et en termes de création de nouveaux lieux de vote où la population est devenue importante, où il faut créer un lieu d'enrôlement pour qu'il soit transformé en lieu de vote. Ça, c'est le répertoire cartographique.
Alors justement, sur la question de cartographie, est-ce que, monsieur le vice-président, vous avez associé les partis politiques, puisque ce sont les acteurs majeurs hein, dans le processus électoral, ceux qui concourent et ils réclament de plus en plus de transparence et d'être associés. Ont-ils été associés à ce processus?
Oui. Généralement, avant d'aller dans ces missions cartographiques, nous convions les partis politiques, les responsables nationaux des partis politiques ici à Abidjan à des rencontres pour leur donner toutes les informations que nous irions sur le terrain pour pouvoir faire l'actualisation du répertoire cartographique. Le constat est que beaucoup de partis politiques ne transmettaient pas ces informations sur le terrain à leurs démembrements locaux. Et il est arrivé plusieurs fois où beaucoup de partis n'étaient pas présents. Cette fois-ci, nous avons décidé nous-mêmes d'envoyer des correspondances à chaque préfet de département pour convoquer les représentants locaux des partis politiques. Et tous les rapports de ces missions avec annexé aux listes de présence nous montrent que tous les principaux partis politiques de Côte d'Ivoire étaient présents à toutes les missions de révision de la cartographie. Mieux, après ces missions, nous avons même reçu certains partis politiques nous envoyer des correspondances pour appuyer les requêtes de création d'un nouveau lieu de vote. Et à 99%, nous avons vu que ces requêtes ont déjà été prises en compte. Donc, pour répondre à votre question, tous les partis politiques qui sont légalement constitués, représentés dans chaque chef-lieu de département, ont été conviés par l'autorité préfectorale. Sur la question du découpage électoral dont vous parliez, il revient à l'État de Côte d'Ivoire, pouvoir exécutif, de faire le découpage des circonscriptions administratives, c'est-à-dire créer une sous-préfecture, créer une préfecture, créer une commune. Ça ne relève pas de la commission électorale indépendante. Quand l'État crée une commune, nous, commission électorale indépendante, relativement à la loi qui nous crée, nous avons l'obligation de pouvoir faire l'élection des conseillers municipaux. Si l'État crée un département, nous devons prendre nécessairement en compte la création de ce nouveau département dans la proposition de découpage électoral que nous devons faire au gouvernement. Ce que la loi nous confère comme attribution, c'est de proposer au gouvernement, en vue des élections législatives, un découpage de 6 circonscriptions électorales. Et la loi nous encadre en disant, la CEU propose au gouvernement un découpage de 6 circonscriptions électorales en tenant compte du découpage administratif en tenant compte du poids de la population, de telle sorte que à la fin, la proposition de la CEI doit maintenir les équilibres. Il ne doit pas avoir au Parlement une localité ou un département qui soit surreprésenté ou bien une localité qui soit sous-représentée. Donc nous prenons des coefficients, 55% population, 25% 55% population, 25% superficie, 20% nombre de localités ou de sites habités, et nous trouvons un coefficient qui nous permet de faire des propositions au gouvernement. Le gouvernement n'a pas compétence liée. Notre proposition de circonscription passe nécessairement au Conseil des ministres qui délibère. Mais je voulais faire une nuance. La proposition du nombre de circonscriptions n'est pas la proposition du nombre de députés. C'est la loi qui détermine le nombre de députés. Donc, c'est au Parlement qu'on dit que les députés sont au nombre de 255 ou sont au nombre de 280. Mais quand nous, ce que nous proposons, si on dit que les députés sont au nombre de 280, nous devons proposer de telle sorte que ces 280 soient répartis équitablement en Côte d'Ivoire en tenant compte des 3 critères que j'ai énoncés, population, superficie, site habité, de telle sorte qu'il n'y ait pas de population qui soit représentée au Parlement de manière supérieure ou inférieure. Tout doit être égal. Donc voici un peu la différence. Et nous, c'est un jeu de rôle. Le gouvernement crée les communes, crée les départements. Nous proposons pour les législatives les propositions des circonscriptions. Le gouvernement crée une commune, nous les affectons, nous faisons l'élection des conseillers municipaux.
Est-ce que, monsieur le vice-président, dans vos explications, est-ce qu'on doit entendre que vous avez déjà proposé ou vous avez dans les pipes, comme on le dit, des éléments qui parlent de la modification du nombre des députés, par exemple, en ce qui concerne les législatives, puisque généralement, c'est une question qui revient, et également aussi la question des municipalités, le nombre de mairies. Est-ce que dans vos travaux, ici au sein de la CEI, vous avez travaillé sur la question, il y a des propositions en vue?
La commission électorale indépendante fonctionne en tenant compte des attributions que le législateur lui a conférées. Et je l'ai dit, le législateur a dit, il revient à la CEI de proposer au gouvernement un découpage de circonscription électorale pour les élections législatives. La réflexion que nous faisons, c'est que lorsqu'on affecte, nous, quand nous faisons nos calculs, et que nous observons qu'il y a des populations ou des localités qui devraient avoir 3 députés, ils en ont 2. Il y a des localités qui devraient avoir 1 élu, ils en ont 4. C'est un exemple. Nous regardons et nous disons, troisième élément, les droits acquis. Une localité qui depuis 1965, 1970 a 2 députés, c'est parce qu'en 2024, vous faites des calculs arithmétiques relativement à vos attributions, que vous allez lui enlever les 2 députés pour que ça passe à 1. Vous maintenez les droits acquis. Tous ceux qui avaient 2 restent 2. Ceux qui avaient 3 restent 3. Mais ceux qui devraient avoir 3 et qui en ont 1, nous proposons qu'ils passent à 3. Ceux qui devraient avoir 5 et qui en ont 4, nous proposons qu'ils passent à 5. Et nous faisons des propositions au gouvernement. Mais ça peut entraîner l'augmentation du nombre de députés. Mais comme je le disais, l'augmentation du nombre de députés ne relève pas la CEI. Notre proposition entraîne qu'il se peut que ça augmente le nombre de députés. Il revient au gouvernement de prendre une délibération et ensuite aller au Parlement pour dire « Ah, il faut augmenter le nombre de députés. » Mais un député a un coût. Donc ça entraîne les modifications ou la prise en compte du coût de nouveaux députés dans la loi des finances. Est-ce que vous comprenez? Mais ça, ça ne relève pas de nous. Ce que nous faisons, c'est de faire des propositions de groupage et envoyer au gouvernement.
Est-ce que vous avez fait ces propositions de
groupage? Mais chaque fois qu'il y a une élection législative qui est en vue, nous proposons, conformément à la loi, au gouvernement, nous faisons des propositions. Et nous avons toujours fait des propositions. Mais ce ne sont que des propositions. La loi ne nous dit pas de les rendre publiques. Nous les envoyons au gouvernement parce que le code électoral nous prévoit que chaque fois qu'il y a une élection, il y a au moins 12 projets de décrets que nous proposons au gouvernement. Donc, pour cette matière de découpage électoral, nous proposerons le moment opportun au gouvernement un nouveau découpage des circonscriptions électorales.
Monsieur le vice-président, la CEI, par le passé, dans ses activités de sensibilisation, impliquait beaucoup la société civile. Mais pour cette campagne de sensibilisation qui vient de se dérouler, on n'a pas senti la présence de la société civile à vos côtés. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que le bail de partenariat CEI-société civile est rompu?
Oh non! La commission électorale indépendante, je l'ai indiqué, a pour attribution, entre autres, de sensibiliser les populations. Et nous avons engagé une campagne sur 10 jours qui s'est limitée dans tous les chefs-lieux de région et les grandes communes d'Abidjan. Et relativement à nos attributions, on a appelé ça nous-mêmes une pré-sensibilisation en vue de donner aux populations toutes les informations pour se préparer pour participer à la révision de la liste électorale. Donc c'était une activité localisée en chef-lieu de région. Chaque superviseur est allé dans chaque chef-lieu de région pour donner l'information au corps constitué, et il appartient maintenant à toutes les représentations régionales d'aller faire la même chose en département et en sous-préfecture. Et pour cela, on n'a pas eu besoin de recourir aux OSC avec qui nous avons l'habitude de travailler. Maintenant, quand nous allons aller dans les missions de sensibilisation en vue de la révision électorale proprement dite, il est évident que nous allons déléguer certaines de nos compétences en matière de sensibilisation à certaines ONG qui en remplissent les conditions et pour pouvoir nous aider à faire ce travail. Les ONG, certaines sont outillées, elles font le travail et elles nous déposent des rapports. Et puis il y a d'autres qui ne déposent pas des rapports. Donc nous évaluons aussi les ONG. Et sur la base de ça, celles qui remplissent les conditions et qui seront éligibles dans certaines localités à pouvoir porter l'information sur la révision de la liste électorale aux populations.
Monsieur le vice-président Alain Dogou, vous avez constaté avec nous-mêmes que récemment, beaucoup de partis politiques, surtout les partis politiques de l'opposition, avaient demandé une réforme de votre institution. Alors, vous, on a constaté dans les explications que vous nous avez données qu'il y a beaucoup de travail qui est fait en amont en termes de réforme, révision des circonscriptions électorales, enregistrement des électeurs sur la liste électorale, donc qui sont quand même quelques réformes ou sinon on va dire actualisations des données que vous avez. Et en ce qui concerne le bureau de la CEI, la composition et le fonctionnement, est-ce que vous faites, comme vous le faites dans d'autres cas, des propositions au gouvernement? Si vous avez déjà fait des propositions dans ce sens-là, à la fois sur la taille et sur les missions.
Merci beaucoup. Les partis politiques sont dans leur rôle. Les partis politiques, à la veille de chaque élection, font des propositions de modification de la commission électorale. Mais c'est normal que les partis politiques fassent des propositions de modification de la composition de la commission électorale. Mais est-ce que ces partis politiques vous disent ce qu'ils reprochent concrètement à la commission électorale et qui justifierait sa modification? La CEI a été créée pour la première fois en 2001. Les partis politiques ont demandé la modification. Elle a été modifiée en 2004. Ensuite, elle a été modifiée en 2014. La société civile religieuse a intégré. Ils sont sortis en 2019. La société civile religieuse est sortie. La société civile des droits de l'homme a augmenté son nombre. De 4 sont passés à 6. Les partis politiques ont été diminués. Mais la CEI, chaque fois qu'il y a un scrutin en vue, ou a été décrié. Alors la question c'est, est-ce que c'est la commission centrale dans sa composition, dans son fonctionnement qu'il faut changer? Mais quel est le problème? Je vais vous dire la vérité. Nous-mêmes, nous faisons notre évaluation à la fin de chaque processus électoral. Et nous faisons aussi l'évaluation avec les partenaires qui sont les partis politiques, la société civile. Il y a des suspicions sur deux principales tâches qui sont les nôtres. L'organisation de la liste électorale. Et puis l'organisation des élections, du scrutin. Sur la liste électorale qui est révisée, nous, CEI, nous sommes 18 commissaires centraux qui avons prêté serment. Et nous avons l'obligation de couvrir toute la Côte d'Ivoire à lieu d'enrôlement. Pour cela, la loi nous dit, chaque fois qu'il y a une activité comme celle-là, vous installez vos démembrements, les commissions locales, au niveau de chaque région, chaque département, chaque sous-préfecture et chaque commune. Et dans ces commissions locales, il y a 5 membres représentant les partis politiques de l'opposition, 4 personnalités représentant les partis politiques au pouvoir et un représentant du préfet et du sous-préfet. On les installe pour faire l'élection d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire. Quand le président élu est du parti au pouvoir, le vice-président est de l'opposition et vice-versa. Le secrétaire, c'est le représentant du préfet et du sous-préfet. Ce sont ces commissions, plus certains de nos administratifs que nous recrutons, qui font un appel à candidature pour collecter tous ceux qui ont le niveau bac dans les localités respectives. Et ce sont ces personnes-là, des Ivoiriens comme vous et moi, que nous formons, que nous mettons dans chacun des 11 000 lieux d'enrôlement pour pouvoir faire l'enrôlement. Ce qu'on nous reproche, c'est que nous respectons trop la loi. À Port-Boué, un jour, on me dit, mais monsieur le superviseur, des gens que nous connaissons ici, vendeurs de viande à l'abattoir, venant d'un pays étranger, à l'enrôlement, on les voit, ils font le rang avec les femmes, les enfants. Tout le monde sait que c'est ce maraca qui vend la viande ici. Ce n'est pas un Ivoirien, mais vous les prenez pour les mettre sur la liste. Je leur ai dit, mais cette personne dont vous parlez, elle a une carte d'identité. Oui, oui, elle a une carte noire d'identité. Vous avez une CNI? Oui, j'ai une CNI. La CEI est dépendante des administrations en amont. C'est l'Ivoirien, selon la loi portant code électoral, qui veut venir se faire enrôler, doit avoir 18 ans et doit être muni d'une carte nationale d'identité. On ne dit pas que si les vendeurs de viande à Port-Boué, à l'abattoir, il ne doit pas venir. Donc, toute personne qui détient la CNI, qui est une CNI officielle signée par l'autorité compétente, nous, elle est éligible. Mais pour les gens, on ne doit pas prendre ces gens-là. On appelle le superviseur. Oui, mais les gens viennent d'Abobo avec des dinars. Il vient se faire enrôler ici à Makori. Il n'habite pas ici. Mais la loi dit, l'électeur qui vient se faire enrôler s'enrôle pour la première fois dans la circonscription électorale de son choix, à condition qu'il y ait une résidence, un domicile ou qu'il paie ses impôts pendant 5 ans. Mais ça, quand il vient pour la première fois se faire enrôler, il ne fait pas la preuve de ces conditions. C'est quand il doit changer de lieu de vote qu'on lui demande un certificat de résidence ou une fiche qui paie les impôts. Mais là, le code électoral dit clairement, l'Ivoirien qui s'est fait enrôler dans une circonscription, même pour la première fois, où il n'a ni résidence, ni domicile, où il ne paie pas d'impôts de biens, si on a la preuve, il est passible d'un emprisonnement ferme de plus d'un an. Donc, ce n'est pas dans le rang qu'on estime la personne. De bonne foi, elle dit que j'habite ici ou j'y ai un intérêt. Si vous, électeur, vous constatez qu'il n'a pas d'intérêt, mais vous faites un recours devant la CEI pour dire le monsieur ou ces gens-là n'habitent pas ici. Mais le recours se fait après l'inscription, devant la CEI qui est une autorité administrative. Et si la CEI examine et que la personne n'y a pas d'intérêt, effectivement, la CEI le sort. Mais si la CEI pense que la personne a tous les éléments de l'inscription, la CEI le maintient. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous allez devant le juge. Le juge a 5 jours pendant sa décision. Sa décision s'applique à la CEI. Donc, les suspicions sur la liste électorale ne devraient pas exister. C'est la même chose pour le vote. Les gens ont l'impression qu'on autorise certaines pratiques, nous, CEI, dans les bureaux de vote. Non, la loi nous dit que ce sont les fonctionnaires et agents de l'État qui ont un matricule, qui sont réquisitionnés par les préfets, mis à disposition des commissions locales. Nous les formons, nous les mettons dans les bureaux de vote. Ils doivent exécuter partout, dans les 22 000 bureaux, toutes les dispositions pertinentes du scrutin. Quelqu'un peut ne pas respecter ces dispositions, sauf que dans chaque bureau de vote, chaque candidat a un représentant. Donc, la loi dit, sur le procès-verbal, toute protestation, toute contestation, toute irrégularité doit être notée par les représentants du candidat. Quel est le problème? Quand vous changez la commission chaque 5 ans, si vous mettez, j'ai dit n'importe quoi, Mahomet, Jésus, Dieu, ce sont des fonctionnaires et agents de l'État qui y prendront pour mettre dans les 22 000 bureaux de vote. Chacun vivra avec sa moralité, mais nous devons veiller à ce que partout où ces personnes-là exercent la mission de service public, qui est l'organisation des élections, ils doivent respecter les dispositions pertinentes du code électoral.
On va revenir sur la première question où vous avez parlé de la liste, où il y a souvent des contestations. Concernant la liste électorale, je vais vous poser deux ou trois petites questions auxquelles vous allez peut-être tenter de nous éclairer. Comment la CEI explique que parfois on retrouve sur ces listes électorales des personnes décédées ou des personnes qui ont été déchues parfois aussi de leurs droits civiques politiques? Le problème de l'actualisation de la liste et des enfants parfois qui n'ont pas droit, qu'on dit qui ont moins de 18 ans ou moins de 16 ans, qu'on retrouve sur la liste. Comment vous expliquez?
Merci beaucoup. La loi portant code électoral dit que la CEI procède chaque année à l'actualisation de la liste électorale. Et l'actualisation de la liste électorale consiste à sortir les personnes décédées définitivement et à inscrire les nouveaux majeurs ou les personnes qui étaient anciennement majeures mais qui ne sont jamais inscrites. L'actualisation consiste aussi à réinscrire ou réaffecter, à corriger les mentions personnelles des personnes qui veulent changer de lieu de vote. Les femmes qui ont changé de nom, qui sont mariées légalement. Mais nous, à la CEI, ce n'est pas à la CEI qu'on déclare les morts. Il revient à l'État de gérer l'État civil. Donc quand il y a une révision de la liste électorale, nous écrivons au ministre de l'Intérieur en charge de l'État civil de nous donner la liste des personnes décédées entre les deux dernières révisions. Et le ministre de l'Intérieur nous doit voir avec ses préfets, voir avec les maires, qu'on puisse les régies d'état civil, consolide les listes, localité par localité, et puis nous envoie les listes. Sur la base de ça, on appuie un bouton et puis on les sort. S'il y a des personnes décédées sur la liste, mais c'est parce que le décès n'a pas été déclaré. Quelqu'un décède dans un village, comme le mien, le chef de village, on lui donne 10 000 francs, on va l'enterrer au cimetière du village. Il n'est même pas marqué dans un registre du décès du village. La localité où il est né, il continue d'exister. Nous, CEI, on n'a aucune preuve qu'il est mort. Le ministère de l'Intérieur ne nous a pas donné qu'il est mort. Ses propres parents ont la possibilité de venir pendant l'enrôlement pour nous donner le certificat de décès. Par quelle magie nous allons sortir ces gens? Donc s'il y a des personnes qui sont décédées et qui sont encore sur la liste, c'est parce que nous, CEI, nous ne recevons pas l'exhaustivité des décès déclarés, puisque l'exhaustivité des décès ne sont pas déclarés. Donc, les gens continueront d'être sur la liste. C'est la même chose pour les personnes déchues de leurs droits civils et politiques. Nous écrivons au ministre de la Justice. Donnez-nous la liste des personnes depuis la dernière révision à qui les tribunaux ivoiriens ont déchu de leurs droits civils et politiques. Ils nous donnent la liste avec le canton. Monsieur Tan, pour 5 ans. Lui, c'est pour 10 ans. L'autre, c'est pour 2 ans. Et ces personnes sont momentanément retirées de la liste. Passé la période du retrait relativement à la condamnation, on vous ramène. Simplement. Donc, tout ce que nous faisons est encadré par la loi. Nous ne pouvons pas faire autre chose. On nous dit souvent, mais vous savez tous que telle personnalité est décédée. Et puis, elle est encore sur la liste électorale. Elle est décédée en France. Ils ont fait les papiers, ils ont envoyé en Côte d'Ivoire. Elle a été enterrée. Personne n'est allé dans son réside de naissance, dans sa localité, pour déclarer le décès. Mais pour le ministère de l'Intérieur, elle continue de vivre. Souvent, les gens viennent dire, mais tout le monde sait qu'il est mort. Bon, on dit, bon, comment il s'appelle? Et puis on donne son nom. On regarde, ils sont 82, portant ce même nom. Lequel des 82 est mort? Donc on ne peut pas sortir 82 personnes parce qu'on cherche à enlever une seule personne. Il faut déclarer les décès. Si vous déclarez les décès, il n'y a pas de problème. Mais si les décès ne sont pas déclarés, mais comment vous voulez que la CEI enlève quelqu'un? Or, un mort ne vote pas. Donc, quel est l'avant? Quel tort cause un mort sur la liste électorale?
Est-ce que vous pensez, au-delà de tout ce travail et d'explication que vous faites, pour faire tomber, comme vous avez dit, les suspicions, est-ce que il ne serait pas intéressant, par exemple, d'auditer la liste électorale, de faire un audit de la liste électorale? Qu'est-ce que vous pensez de l'audit? Auditer, c'est peut-être envoyer des personnes extérieures ou qui vont regarder la liste, travailler dessus sur ces questions de doublons, sur ces questions de non-répétés, sur ces questions de personnes de mise à jour par rapport donc à l'état civil, parce que vous avez un délai court quand même.
Bien. L'audit, nous, Commission électorale indépendante, nous n'avons rien contre l'audit de la liste électorale. Au contraire, nous demandons que la liste électorale soit auditée. Si elle est auditée, peut-être ça va rassurer les gens. Mais la plupart de ceux qui demandent l'audit, nous demandons s'ils ont bien lu le code électoral. Nous avons un code électoral qui permet d'auditer la liste électorale pour chaque acte. La loi qui crée la CEI et le code électoral sont précis là-dessus. Le jour de l'inscription, quand je vous ai dit, vous pouvez vous inscrire. Mais vous vous inscrivez avec quoi? Avec les pièces qui sont exigées à l'enrôlement. Et les pièces qui sont exigées à l'enrôlement, le code électoral a évolué. La loi portant code électoral disait en 2000, l'Ivoirien âgé de 18 ans, muni d'une carte nationale d'identité, vient se présenter dans la circonscription électorale de son choix. Et puis en 2004, le code a été modifié. L'Ivoirien âgé de 18 ans, muni d'une carte nationale d'identité ou de tout autre document tenant lieu. En 2008-2009, les politiques ont demandé à ce que des gens qui ont l'extrait de naissance puissent venir se faire enrôler. En 2014, ils ont demandé à ce que ceux qui ont des certificats de nationalité puissent se faire enrôler. Donc, sur la liste électorale, vous avez des gens qui sont dessus, mais qui n'ont jamais eu de carte nationale d'identité. C'est ça que l'audit veut nous montrer. Non, mais on n'a qu'à appuyer un bouton et puis on se réussit. On va bien auditer. Nous savons le nombre de personnes. Nous avons demandé à l'ONESI, nous avons croisé les fichiers, nous avons le nombre d'Ivoiriens qui sont sur la liste électorale, qui n'ont jamais eu de carte d'identité. Nous avons le nombre d'Ivoiriens qui ont une carte d'identité, qui ne sont pas sur la liste électorale. L'audit, c'est pourquoi. Quand vous venez, monsieur, si votre carte nationale d'identité indique que vous êtes né en 1802, quand vous venez dans le centre d'enrôlement, nous vous inscrivons avec date de naissance 1802. Parce que la loi dit, si vous n'avez pas votre carte d'électeur, que vous avez vos cartes d'identité, vous devez voter. Donc, il doit avoir concordance des mentions. Donc, l'audit va nous dire, il y a 250 personnes qui ont plus de 200 ans. Ça, on le sait. Mais est-ce qu'ils n'ont pas plus de 18 ans? L'erreur matérielle qui a été faite pendant l'enrôlement de la personne pour faire sa carte d'identité, nous sommes obligés de la dupliquer de telle sorte qu'il y ait concordance des mentions. Si la personne change sa CNI, qu'au lieu de mettre 1802, on met 1962, nous aussi, pendant la révision, il viendra et puis on corrigera. Donc, pour nous, quand vous voyez la photo de la personne, vous savez bien qu'elle n'est pas née en 1802. Mais c'est une erreur matérielle de l'agent de l'ONI ou de l'ONESI au moment de la confession de la CNI. Alors, nous, on veut auditer. Mais si vous n'êtes pas sûr de la carte et de la liste électorale, mais demandez qu'elle soit reconstituée, on met tout à zéro. Il n'y a aucun mort dessus. n'y a aucune personne qui a 200 ans dessus. On reprend à zéro. Mais là, la loi nous dit que pour que la liste électorale soit reconstituée à zéro, il faut qu'elle soit partiellement ou entièrement détruite. La CEU ne peut pas avoir l'initiative parce que la liste électorale aussi, sa confession, sa reconstitution a un coût. Tu dois être prise en compte dans la loi des finances. Donc, c'est les politiques qui peuvent dire, ah nous, cette liste-là, elle nous fait plus, on ne fait plus confiance, et alors à zéro. Maintenant, il faut l'auditer. Et après. Mais Dieu merci, la loi prévoit que chaque parti politique reçoive la liste électorale provisoire sur support numérique pour aller l'auditer et venir voir la CEI. La plupart des grands partis politiques de Côte d'Ivoire sont venus à la CEI. Certains ont fait des points de presse. On leur a dit non, c'est nous qui organisons les élections. Venez à la CEI. Et puis ils sont venus nous donner les résultats de leurs audits. On a fait 5 heures de réunion. Oui, il y a des mineurs dessus. Ah, non, ce n'est pas des mineurs en réalité. Mais voilà. Non, il y a beaucoup de gens qui ont 200 ans. Celui-là a 300 ans. Donc, les voici. Voici les raisons. Voici les pièces qu'ils ont présentées. Voici leur extrait de naissance. L'erreur est tant. Nous, ceux, nous sommes tributaires des administrations en amont et des erreurs en amont. Si l'erreur est corrigée par l'administration compétente, nous corrigeons. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a 200 ans, si sa CNI, qui ne peut pas être électeur, non, il a plus de 18 ans. La loi dit qu'il faut avoir plus de 18 ans. Donc, ce n'est pas le fait de changer de commission électorale qui va résoudre le problème. Il faut trouver des solutions de telle sorte que nous puissions rassurer tout le monde. Donc, nous, ceux-ci, nous n'avons rien contre l'audit de la liste électorale. Au contraire, nous demandons à tous citoyens de l'auditer, à tous les partis politiques de trouver les experts, de l'auditer et puis de venir nous confondre. À ce moment-là, ce qui relève de nous, nous corrigeons.
Monsieur le vice-président, nous allons parler de la liste électorale. D'aucuns disent que, au regard donc de la population ivoirienne, la masse de la population ivoirienne et la liste électorale, la liste à peu près 8 millions, hein, on va dire, sur une population qui est estimée aussi à 30 millions, 29 millions, 30 millions. Donc les uns et les autres estiment que on aurait pu aller plus loin avec le nombre d'électeurs. Pourquoi ce nombre d'électeurs, pourquoi on n'arrive pas à aller au-delà des 10 millions, avoir le tiers donc des 30 millions en termes de liste électorale et d'Ivoiriens qui peut participer au processus électoral? Pourquoi la liste électorale, le nombre d'inscrits, on estime que ce n'est pas suffisamment ce qu'on attend? C'est vrai que ça fait la moitié, mais on peut aller au-delà des 50 ou 60%.
Les Ivoiriens sont formidables. Deux choses. La première, 30 millions de personnes vivant en Côte d'Ivoire, ce n'est pas 30 millions d'Ivoiriens. Deuxième élément, dans les 22 millions d'Ivoiriens, tous n'ont pas 18 ans. Donc, est-ce que vous voyez?
Oui.
Voilà, 30 millions de personnes vivant en Côte d'Ivoire, 22 millions d'Ivoiriens, combien parmi ces 22 millions ont 18 ans? En termes des résultats du RGPH, recensement général population d'habitat, c'est 12 millions de personnes qui ont 18 ans. Donc, ce qu'il faut capter, si on a 8 millions actuels, c'est 4 millions qu'il faut rechercher. Donc, ce n'est pas une question du tiers de la population qu'il faut rechercher ou des deux tiers qui ne viennent pas. C'est 4 millions d'Ivoiriens qui, selon le recensement général population de l'habitat, ont 18 ans et 4 qui ne viennent pas et qui devaient être inscrits, qui ne sont pas inscrits. Deuxième élément, l'inscription n'est pas obligatoire, elle est volontaire. Le code électoral dit que l'Ivoirien âgé de 18 ans vient s'inscrire dans la circonscription électorale de son choix. S'il ne veut pas s'inscrire, vous n'avez aucun moyen de coercition. Nous ouvrons ceux-ci tous les 11 000 lieux de vote en Côte d'Ivoire pendant un mois. Nous sensibilisons tous les corps constitués. Dans chaque chef-lieu de région, département, sous-préfecture, nous déléguons la sensibilisation quelquefois aux OSC, la société civile. Allez dire aux gens en langue vernaculaire, dans toutes les langues, venez. Mais celui qui vient, celui qui comprend. Il y a une année où, pendant un mois, on a eu 0 inscrits dans 5000 lieux de vote. Pendant un mois, personne n'est venu. Et dans 2800 lieux de vote, il y a eu entre 1 et 5 inscrits. Bon, on fait quoi? D'abord, quand vous naissez en Côte d'Ivoire, la loi dit que vous devez déclarer l'enfant qui est né. Est-ce que vous savez ça? Quand vous mettez un enfant au monde, vous devez le déclarer. Mais chaque 4 ans, 5 ans, l'État fait quoi? Des audiences foraines pour des gens qui n'ont pas déclaré l'enfant. Le constat a été à l'époque, c'est que c'était seulement 15 jours, c'était trop court pour déclarer. Le législateur a amené ça de 15 jours à 3 mois. Quand ils envoient à 3 mois, le nombre de naissances non déclarées est plus important. Donc, là où tu mets quelqu'un au monde, tu dois déclarer, lui donner un extrait de naissance, tu ne le déclares pas. La sous-préfecture est là, la mairie est là. Bon, nous sensibilisons. Mais on ne peut pas nous dire qu'il devrait avoir 12 millions, il y en a 8 millions. Mais notre système en Côte d'Ivoire n'est pas le même que dans certains pays. En France, quand vous passez d'une commune à une autre, vous allez à la mairie pour vous présenter. Pour dire, je vais faire plus de 3 mois. Après 3 mois, on vous met sur la liste électorale et on vous sort de là où vous venez. Si bien que ceux qui ont voté au premier tour, par exemple en France, des enfants qui n'ont pas voté au premier tour des élections législatives de 29 juin, qui ont eu 18 ans entre le 29 juin et le 5 juillet, ont voté au deuxième tour. Parce que c'est systématique. Quand vous avez 18 ans, on appuie un bouton, on vous met sur la liste électorale. Chez nous, l'inscription se fait au choix. Chacun choisit la circonscription où il va voter. Quand je dis que je vais aller faire mon extrait de naissance, enfin, quand je vais faire ma CNI, je dis n'importe quoi à Abobo, parce que le commissaire de police, c'est un cousin, il y a Abobo. C'est pas parce que je dis que je vais voter à Abobo. Donc, nous aussi, nous avons croisé un peu l'ONESI pour voir est-ce qu'on ne peut pas faire l'inscription automatique. Mais en même temps, il y a des contraintes légales de mettre quelqu'un d'une liste électorale alors qu'il ne l'a pas demandé. Son choix, il ne l'a pas exprimé. Or, la loi dit qu'il s'inscrit dans la circonscription électorale de son choix. En allant faire sa carte nationale d'identité à Abobo ou à Oudiné ou à Ma, est-ce qu'il vous a dit qu'il voulait s'inscrire là-bas? En plus, est-ce qu'il vous a dit qu'il y a une résidence? Est-ce qu'il a un domicile ou bien il a un intérêt? Or, il faut s'inscrire dans la localité où on a une résidence, un domicile ou un intérêt. Donc, le basculement systématique qui est demandé par certains a des contraintes légales. Ensuite, les politiques vont nous dire plus tard, le taux de participation est très bas parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas demandé à être inscrits dans cette localité et que vous avez mis de force. Ce qui fait que j'ai été élu avec 15% de voix. L'inscription automatique affecte le taux de participation. Quelqu'un qui n'a pas manifesté la volonté de s'inscrire, vous le mettez de droit sur la liste. Il ne vient pas voter. Il affecte l'élection par le taux de participation. Et puis on va dire que les gens ont été mal élus. Donc ce sont des réflexions dynamiques qu'il faut mener au moment opportun. S'il faut revoir les lois qui encadrent la révision électorale, elles seront peut-être revues par le législateur. Nous faisons à la fin de chaque scrutin des propositions au gouvernement pour améliorer l'organisation des scrutins, pour améliorer l'organisation de la révision. C'est ce qui fait que désormais, quand votre parent est décédé, on n'attend plus l'affichage à la liste électorale provisoire pour que le parent vienne à la CEI, qui est en chef lieu de département ou sous-préfecture, avec un certificat de décès. Maintenant, pour chaque révision, chaque parent peut se déplacer pour venir avec un certificat de décès dans le village pour extraire son parent. Donc ce sont des propositions que nous avons faites au gouvernement et nous avons aussi fait des propositions pour que les personnes en situation de handicap soient prises en compte dans les lieux d'enrôlement, pour qu'on puisse faire des aménagements, pour qu'il y ait des commodités. Parce que si le bureau de vote se trouve au premier étage et que la personne est handicapée au moteur, elle ne peut pas avoir accès. Donc ce sont des propositions que nous avons faites au gouvernement, y compris les propositions pour la participation des femmes dans les assemblées élues, de telle sorte que ce que la loi et le code électoral ont prévu puisse être en phase afin qu'il y ait plusieurs femmes dans les assemblées. Donc nous faisons beaucoup, beaucoup de propositions au gouvernement pour améliorer l'organisation des élections en Côte d'Ivoire.
C'est la fin de cet entretien. Je recevais donc Monsieur Alain Dougou. Il est le deuxième vice-président de la CEI avec qui nous avons parlé du processus de sensibilisation qu'a initié cette institution au profit des populations. Monsieur le vice-président Alain Dougou, merci beaucoup. Merci d'avoir,
je vous remercie.
D'avoir accepté notre entretien. C'est la fin donc de la grande interview. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Ben Diakité et Antoine Kouassi ont eu le plaisir de vous présenter cette émission et à très très bientôt. Merci.
Vous venez de suivre la grande interview.